Eh oui, les amis, de retour sur les ondes, hein. Vous voyez comme on est dans un festival de hip-hop, hein. La culture hip-hop, c'est tellement large, donc il n'y a pas que du b-boying, il n'y a pas que des artistes, il y a aussi des DJ. Donc voilà, ce plateau qu'on va voir maintenant, ça sera, je pense, ça sera entre nous, hein. D'abord, on a Abby. C'est ça?
Non, Awa? Awa.
Pardon, Awa, tu vas bien? Ça va tranquille, de Doggy Bag. Hein.
C'est ça.
Et t'es accompagné?
Je suis accompagné. Mon frère jumeau, encore une fois, comme d'habitude, ceux qui écoutent savent qui c'est.
Toujours là, Adama. Donc voilà, deuxième membre de Doggy Bag. Et on est aujourd'hui, du coup, avec quelqu'un d'autre, un grand homme qui revient d'une grande émission tout à l'heure.
Grand homme, par la taille seulement.
Ok, Doggy Bag. D'abord, avant qu'on démarre ça, là, vu que c'est une discussion entre nous, c'est quoi Doggy Bag? C'est quoi le concept, en fait?
C'est une émission, comme d'habitude, basée à Radio Campus, parce que maintenant, vous nous connaissez. Et on parle autour de sujets de rap. On fait aussi des petites interviews d'artistes. On en a sorti une, d'ailleurs, récemment sur Spotify et Deezer. C'était une interview de Nelik et bientôt une interview de James Baker. Voilà, donc on fait des petites interviews, on fait des sessions freestyle, on discute autour de plusieurs sujets et on est disponible, du coup, sur les plateformes et sur le site, bien évidemment, de Radio Campus.
Yes, et là, tout de suite, ici, dans le cadre de ce festival, je l'ai dit, il n'y a pas que des artistes, il n'y a pas que du danse, il y a aussi des DJ. Donc là, c'est vous ça. Voulez nous parler des métiers de DJ, et on vous écoute alors.
On va parler du coup de l'histoire du DJing. Adama, je te laisse commencer.
Ouais, alors le DJing déjà c'est quelque chose qui a commencé dans les années 60, mais dès les années 50 ça commençait à devenir quelque chose de plus en plus essentiel qui allait prendre forme, on le voyait déjà venir, parce que les radios passaient de plus en plus de musique et ils voulaient avoir des transitions acceptables. D'abord donc il y avait des mecs qui parlaient entre les sons, qui arrivaient, qui étaient un peu en train de dire donc maintenant on va se passer ça, tout ça, tout ça, vous connaissez. Puis ensuite il y a eu des jingles, et puis il y a pas mal de disquaires qui mettaient de la musique en soirée qui se sont dit... que ce serait cool en fait de faire des bêtes de transition comme ça. Du coup au début ils faisaient un peu des jingles, ils posaient un peu et tout, et ça c'est cette manière de parler dans les transitions, ça s'est mélangé avec l'évolution des technologies qui permettaient de modifier les sons, donc de faire du scratch, d'envoyer des petits modifs, des petits remix pour que les sons passent bien, pour que ça s'enchaîne avec fluidité, et donc ça a réussi à créer quelque chose. Les origines du DJing c'est là, et très rapidement ça s'exporte dans plein d'endroits. Parce que, évidemment, c'est quelque chose de très festif. Et quand ça démarre aux États-Unis et qu'on entend la radio, ça part partout. À ce moment-là, c'est.
Super transition pour moi, ça.
Non, pas du tout, parce que c'est toujours un bon moment.
Ah,
donc, à ce moment-là, ça part en Jamaïque, notamment. Et c'est là que ça devient super intéressant. Parce que les DJ jamaïcains occupent très, très, très rapidement une place aussi importante que les autres musiciens dans la musique. Ça veut dire qu'eux, ils vont beaucoup poser. Ça va être un peu des backers. Mais pour les albums studio, des mecs qui vont faire les transitions pendant les albums, quelque chose qui est moins courant maintenant, ce qui est complètement délirant, remettez ça à la mode, je vous en conjure.
Par pitié.
Et c'était très 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 chaud. Et donc, à ce moment-là, le reggae notamment avait une grande vague où les DJ étaient aussi importants que les artistes qui étaient mis sur alors que c'était pas leur nom sur la cover et tout. Et là, il y a un Jamaïcain qui part aux États-Unis, qui s'installe au Bronx, qui s'appelle DJ Kulerk. Et qui a eu une grosse influence dont Awa, je crois que tu vas nous parler d'une manière très intéressante.
Effectivement, Adama, tu réfléchis bien parce que je vais effectivement vous en parler. Donc DJ Kool Herc avec un K pour le cool et un C à la fin de Herc.
Pour Hercule.
Hercule, exactement. Du coup, il emménage dans le Bronx, comme l'a dit mon frère, et il organise des block parties. Donc c'est juste un rassemblement de plein de gens autour de la culture hip-hop. Bon, pour le moment, c'était pas encore des rassemblements autour de la culture hip-hop, mais maintenant oui. Et c'est comme ça que ça a été majoritairement créé, littéralement, la culture hip-hop. Parce que grâce à DJ Kool-Herc qui faisait ses soirées où il invitait tout le monde, et il y avait plein de gens qui venaient danser, des gens qui venaient rapper, justement.
Rapper Ah ouais, très très. En tout cas, c'est intéressant hein, parce que sincèrement, ça me fait un petit retour en arrière aussi également.
Ouais.
Parce que là, on voit les MC et tout ça. En tout cas, le rap et tout, les artistes, ça a d'abord commencé par les DJ d'abord, comme vous le disiez.
C'est la base
hein,
de tout.
Voilà, c'est la base, le rap, ça a commencé par là.
Et puis même, en fait, à la base, avant les rappeurs, il y avait les DJ qui posaient donc. Et eux, leur objectif principal, c'était d'ambiancer, de faire des bonnes transitions. Et à force de poser sur les breaks qu'ils laissaient sur les différentes instrumentales, donc que ce soit dans plein de styles différents, mais notamment dans la house ou dans la funk, ils se sont rendus compte que leur objectif, eux, c'était pas à ce moment-là de faire de la bonne musique, c'était d'ambiancer les gens. Ils se sont rendus compte que la partie que les gens préféraient, c'était les breaks. Et à force de poser sur les breaks pour faire des transitions,
le rap est né.
Exactement. Et c'est là qu'il y a eu les MC, parce que c'était des maîtres de cérémonie à la base. Et ensuite, vous savez comment ça se passe, ça dérive, tout ça, tout ça.
Est-ce que je peux enchaîner sur les samples du coup ou t'as quelque
Bien
chose
sûr,
d'autre à nous
parce
dire
que le DJing, il y a une importance. Le DJing, est-ce que c'est la même chose que d'être un compositeur à voix ?
Thomas, c'est une super question que tu me poses aujourd'hui. En fait, pas du tout. Parce que du coup, les compositeurs, c'est eux qui choisissent différents instruments et qui les mélangent pour faire du coup une sonorité. Alors que les DJing, ils prennent plusieurs musiques et après, ils les remixent. Donc, ils prennent différents éléments. C'est comme une grande soupe, on va dire. Voilà. Et ils mixent tout ça. Donc, il y a vraiment une différence avec les compositeurs et c'est important de pas du tout... pas les ramener à la même personne. Et... notamment pour les samples, parce que j'adore les samples. Moi, on le sait, on a fait un épisode, le premier épisode en fait qu'on a sorti, le premier épisode qu'on a enregistré totalement, c'est l'alchimie rappeur-producteur. Et dedans, moi, je choisis de parler de Jean Jass, que j'aime profondément. Dylan, tu pourras dire quelques mots dessus si tu veux. D'ailleurs, Dylan ne s'est pas présenté, mais c'est encore une fois Dylan du Mix Radio qui était là tout à l'heure. Vous l'avez sûrement entendu en session freestyle.
Exactement, merci pour l'introduction. Dylan. Ah ouais, exactement, on va parler des samples. Et les samples, ça nous parle auditeurs encore aujourd'hui. C'est un truc qui a été utilisé depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais ça continue d'être très actuel. Et un des artistes qui le porte au mieux, c'est comme tu l'as dit, Jean Jass, qui justement vient de sortir un dernier EP qui s'est mis sur la production il n'y a pas longtemps, mais évidemment il produit encore pour lui. Donc le dernier album solo de Jean Jass qu'on a vu il n'y a pas longtemps, il
reprend
tous ses ongles rangés à chaque fois. C'est lui qui fait les prods et à chaque fois il y a un sample banger. Est-ce que Jean Jass c'est le maître du sample du rap francophone?
Moi, je pense que oui.
Et d'ailleurs, je pense qu'à Jeune Crack et sa grande descendance, à Jeune Crack deviendra le futur maître du sample.
Ça se tient, okay. Tu sais quoi?
Pourquoi donc?
Je mise dessus.
Pourquoi donc? Parce qu'à partir du moment où il y a un mec qui fait des matinées à 8h du mat, où il va sampler des morceaux sur lesquels il va poser lui-même, si ça, c'est pas une vie de rat studio, si ça, c'est pas la vie de Jean Jass. On veut pas la vie de Kevin De Bruyne, on veut celle de Jean Jass.
Si. Tu peux pas être un sampleur ou être reconnu comme un bon sampleur sans être un bon digger, c'est ça?
Exactement.
Bah justement, Jean Jass, il est apparu dans une vidéo combinée récemment où il présente plusieurs albums et il dit ça je l'ai samplé. Il a tout samplé. Et il le dit même dans des interviews que moi je me suis perdue sur YouTube et j'ai regardé des interviews.
Fou.
Il est fou. Non, il est fada. Et en fait, pendant des heures, il se pose et il se met sur YouTube et il dit. Tout ce qu'il fait, c'est chercher, c'est creuser tous les trucs. Il écoute tout juste pour savoir s'il y a un truc intéressant à sampler. Et dans le dernier projet dont tu parlais tout à l'heure, donc tous ses ongles rangés, il a samplé justement Gazo.
Oui,
et
totalement.
Ça, je trouve ça mais phénoménal, franchement. Moi,
Théma,
ça me fait juste trop plaisir.
De la Kishta.
Exactement. Et le son s'appelle Théma, et moi, je le dévore depuis la sortie. Même le projet en soi est phénoménal. Allez écouter encore une fois.
C'est sorti le 3 septembre, c'est dispo encore sur toutes les plateformes, évidemment, mais ça fait des années qu'il fait ça. Le sample, c'est pas sans risque. C'est Jean Jass qui en parle aussi dans les interviews. Adama, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce à quoi tu t'exposes quand tu fais du sampling aussi?
Eh bien, le sampling, le problème, c'est que tu peux vite tomber sur des choses qui ne sont pas du tout libres de droit. Donc ça, déjà, ça pose problème pour mettre les morceaux. Mais même si des fois, étonnamment, ça passe, hein, merci aux plateformes de nous laisser le magnifique projet de Hill, ainsi soit-il. Parfait, il n'a récupéré les droits pour rien du tout, c'est magnifique. Tout est quand même là.
Attends qu'on peut l'écouter avec esprit restreint, d'ailleurs.
Faut prendre ça avec précaution, hein, quand même.
Exactement.
Tu peux faire saigner le son pendant 10 ans et la personne qui l'a créé, qui était le premier qui l'a créé, en fait, toi, tu l'as samplé, cette personne, elle peut valoir ses droits après 10 ans.
Exactement.
Donc, c'est ça qui est dangereux, en fait.
Oui, il ne faut pas dépenser la paye rapidement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important de faire attention à d'où viennent les samples et à ne pas non plus les diffuser et essayer de faire de l'argent avec si vous n'avez pas cleané tout ça avant.
Et surtout, il faut bien les utiliser. Moi, je pense à la dernière saison de Nouvelle École où ils ont eu une épreuve où ils devaient sampler et rapper quelque chose sur un vieux truc et j'ai trouvé que c'était de la merde.
Bah, en fait,
petite critique gratuite.
Non, mais c'est vrai que c'est mauvais de forcer les gens à sampler. Le sample, normalement, c'est un truc pas spécialement du digger, mais c'est un
naturel,
truc où on se dit « Oui, j'ai envie de sampler ça. » Ou alors, c'est quelqu'un qui va se perdre sur YouTube, qui va chercher tout ça. Mais le sampling, c'est...
Faut pas forcer la chose.
Exactement. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment composer. Encore une fois, le métier de DJ et de compositeur n'est pas le même. Il ne faut pas se dire que... un DJ est obligé de composer.
Par contre, je pense qu'on peut se forcer à bien rapper.
Mais bref,
ça, on a des exemples.
Ce n'est pas le sujet.
C'est
du coup, où en étions-nous dans la trame?
Tac. Maintenant, on va parler de la création de l'électro.
Exactement. Donc, le DJing, ça s'exporte très très vite sur plein de styles. Évidemment, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de partout. Et puis, dès les débuts de l'électro, Eh bien, évidemment, on donne à des nerds qui font énormément, énormément de musique avec des machines, d'autres machines qui font énormément de musique. Évidemment qu'ils se les approprient très, très, très vite, que très rapidement, ça donne un nouveau style musical qui est l'électro, qui lui aussi va devenir plus qu'énorme, on le sait déjà, vu que maintenant l'électro s'est mélangé à absolument tout. Et notamment, dès le début, il y a quelques personnes qui mélangent ça avec le rap. Donc, notamment, Afrika Bambaataa, qui était souvent accompagné donc, de DJ Yutaka de la Zulu Nation,
tout à fait.
Qui mélangeait énormément, énormément ces deux styles-là. Et ça a permis donc d'ouvrir encore plus l'électro, qui a très rapidement pris une place énorme dans la musique, ce qui est très très bien. Et notamment, il y a quelqu'un dont je suis très 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 fan comme DJ, dont je suis énormément de choses qu'il fait, même s'il est complètement inconnu au bataillon et surtout en France, c'est DJ Blackpo, c'est un Vietnamien. Je vous conseille énormément ce qu'il fait. Il a sorti un truc sur YouTube il n'y a pas longtemps sur la chaîne Quen qui s'appelle Bolé Room. Il était dans un marché, il y a des types qui lui ont filé des morceaux. 4 jours plus tard, il arrive avec la légendaire SP404 et il nous fait un DJing de qualité sur 50 minutes. C'est magnifique, je vous conseille d'aller écouter ça. C'est un mélange, il y a plein de trucs. Il y a de la DNB, il y a de la musique traditionnelle, il y a du rap, il y a tout ce que vous voulez. Il y en a pour tous les goûts.
En fait, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, le DJing, c'est un mélange de plusieurs éléments au final. Et là, lui, il mélange tout.
Et moi, j'ai une petite question. Parler, c'est ça ? DJ Mehdi, est-ce que ça vous dit quelque chose quand même ?
Bien sûr, ça arrive.
Ah, okay.
Mais justement, dans l'électro.
T'es en avance, Sana, t'es en avance.
Ouais. T'es trop préparé, t'es trop fort pour nous, Sana.
Non, mais du coup, j'ai appris plein de choses aujourd'hui avec vous.
Mais merci.
Et c'est pas fini.
C'est pas fini. Mais oui, du coup, l'électro, ça s'exporte en France. En France, il y a plein de gens qui font ça. Il y a les Daft Punk qui se forment et tout. Et il y a un mec qui est aussi fort en électro qu'en rap, qui produit des classiques, qui mélange l'électro, qui fait que l'électro et le rap soient respectés quand c'est mélangé ensemble en France. Un mec sur lequel un documentaire est sorti il n'y a pas longtemps. Awa, parle-nous de lui. Dylan, parle-nous de lui.
Dylan, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu me...
Non, je te laisse peut-être faire la description de ce que Arte a pu sortir avec ce fameux documentaire.
J'ai pas fini le documentaire,
sur DJ Mehdi. Non, mais au moins le présenter. Et moi, j'aimerais plutôt revenir sur l'impact qu'il a eu, en tout cas sur la culture et comment il a été reçu par le public. Donc, je te laisse commencer.
Ouais. Absolument. Donc, DJ Mehdi, pour ceux qui connaissent pas, c'était un DJ parce qu'il est mort. Du coup, c'est important de le préciser, je pense. Et du coup... Dylan parlait du documentaire sur Arte et effectivement c'était un documentaire pour l'honorer, on va dire. Et super documentaire, faut absolument que vous regardiez ça, magnifique. Enfin, j'ai regardé quelques extraits mais j'ai regardé l'épisode 1 en entier et je recommande, dans tous les cas c'est intéressant et Arte ils savent ce qu'ils font et ils le font bien généralement, donc je conseille. Mais DJ Mehdi, du coup, il a été dans un groupe d'ailleurs avec Kerry James, pour ceux qui voient qui c'est un super rappeur, pour ceux qui voient pas qui c'est.
Légende du rap français.
Légende. Voilà. Il était dans un groupe avec Kerry James qui s'appelle Ideal J pour Ideal Junior. Et en fait, DJ Mehdi commence à faire des prods quand il a 13 ans, il me semble.
Ouais.
Oui, très très jeune.
13 ans, très très jeune. Et bah du coup, Kerry James aussi. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que Kerry James, il rappait excessivement bien pour son âge. Il sortait des mots, mais gars, des monstres.
Même toute sa carrière, hein, pour être honnête.
Ouais. Oui, jusqu'à maintenant, il est à présent.
Voilà. Il est toujours fort. Hein,
ouais. Il est toujours fort, mais quand vous voyez sa tête à 13 ans en train de débiter là...
Ouais, c'est une folie.
Bref, DJ Mehdi très fort et il a collaboré avec beaucoup de personnes pendant toute sa carrière, notamment Pharrell par exemple, un petit nom comme ça, un petit artiste, je sais pas si vous en avez entendu parler, ou alors Rimka. C'est DJ Mehdi qui a fait la prod de Tonton du Bled.
Ouais. Oui, et même qui a tout fait sur les 113, sur les Princes de la Ville. Sur ouais. 113, sur les Princes de la Ville. Enfin, il a fait toutes les prods quasiment, et c'est très très chaud. En fait, ça permet de faire que cet album reste encore actuel dans sa proposition. Et je trouve qu'on oublie beaucoup des DJ qui ont réussi à faire que des albums soient des classiques. Que ce soit DJ Logilo pour les Sage Po, que ce soit même en termes de compositeur, Jimmy Finger pour Quelques Gouttes Suffisent. Il faut bien rappeler l'importance.
Ou Richie Beats, tiens, je sais pas.
Ou Richie Beats.
Oui, en plus moderne. Moi, ce que je trouve intéressant dans le documentaire de DJ Mehdi, et c'est toute la problématique de l'émission aujourd'hui, c'est que les DJ, c'est pas les personnes qu'on met en avant en premier quand on va parler de rap, ou même potentiellement quand on va parler de la culture hip-hop, on sait qu'ils sont là, mais ça fait partie du discours aussi de Parallel Jam, tu vois, de mettre en avant toutes ces facettes de la culture hip-hop dont les DJ sont des principaux acteurs. Bien ce que sûr. Je trouve bien avec DJ Mehdi, c'est comme vous l'avez rappelé, il a une place extrêmement importante dans cette culture hip-hop, particulièrement en France, et aussi du fait que à cette époque-là, il a pu s'exporter avec des Pharrell, avec des personnes comme ça. Ce que je trouve hyper intéressant dans le documentaire de Arte, c'est ce côté-là, de mettre en avant les DJ, chose qui était pas assez bien faite, malheureusement avec l'image tragique de Mehdi, disparu beaucoup trop tôt.
Mais
ça fait qu'il y a plein de gens qui étaient fans de cette culture rap qui sont remangés ou mangés DJ Mehdi, en tout cas tout ce qui représente.
La plupart, moi, je pense.
C'est ça, exactement.
Et même, il y a plein de trucs, ils ont ressorti un projet de DJ Mehdi il n'y a pas longtemps.
C'est sorti au cinéma, il y a eu des trucs.
Tout à fait. Dylan, je ne vais pas te couper, mais la semaine dernière, moi, j'ai reçu un artiste parisien. Depuis 1990, il a commencé le rap en fait. C'est quelqu'un qui connaissait DJ Mehdi et il m'a raconté l'histoire, comment il a commencé à faire des DJing ou DJing comme vous le dites en anglais. Il disait, on lui a donné en fait un petit du sample 5-7 secondes et il arrive à faire tout un morceau. Donc je me disais, aujourd'hui attaque-vous des professionnels quand même dans ce domaine-là. Est-ce que c'est un DJ Mehdi? Et il y aura aussi cette influence du hip-hop, dans le hip-hop, du rap français.
Non, c'est sûr qu'il a contribué à faire avancer le mouvement. Après, je me demande, est-ce qu'on n'aurait pas eu quelqu'un d'autre, au final, qui se serait démarqué et qui aurait pris la place que DJ Mehdi a actuellement?
Peut-être. Je pense pas, mais je pense que oui, DJ Mehdi a été très important, surtout pour, encore une fois, son lien avec l'électro, avec les Daft Punk, avec même toute la scène électro française et tout, que beaucoup de monde n'aurait pas eu à cette période-là, surtout dans le rap français. Parce qu'encore une fois, on a vu ce qui est sorti plus tard, qui a beaucoup été critiqué pour des aspects comme ça, que ce soit TTC, tout ça, dont on a parlé dans une autre émission, qu'on va bientôt mettre en ligne. Hop, je fais la petite pub.
Mais
du coup, DJ Mehdi a eu une énorme importance, et je pense pas qu'il aurait été remplaçable. Et surtout, il a permis, et il permet encore aujourd'hui, grâce au documentaire, de montrer que le DJing, c'est bien en fait. Il y a plein de jeunes du coup qui commencent à rapper tout ça, mais qui ont, ou même d'être compositeur, mais personne veut être DJ.
C'est trop cool de montrer
aux jeunes l'importance.
Sans les DJ, il y aura pas de rap, les amis. Ça, je vous le dis tout de suite.
Exactement.
Et Adama, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand on était tranquillement posé chez nous. C'est que ce que j'aime bien dans notre génération, c'est qu'on est une génération de touche à tout. Ça veut dire que là, par exemple, à Jeune Crack. On en reparle, hein, il touche à tout, il fait tout, Jean-Jacques, il fait tout.
Ouais, mais ils ne sont pas leurs propres DJ, encore une fois.
C'est sûr. Mais.
Mais ils en ont des très bons.
Mais du coup, c'était pour faire une petite transition. Donc, touche à tout. Tiens, DJ Mehdi, on retourne dessus. Ce que je disais tout à l'heure par rapport au DJing, c'était que c'était de l'art de mixer plusieurs éléments ensemble. Et en fait, DJ Mehdi, il n'avait pas de matos à l'époque parce que ça coûtait le prix d'une voiture. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est juste qu'il a construit ses propres objets de mixage. C'est fou, ça. C'était juste que ça me faisait rire de faire un jeu de mots en disant mixer les éléments et vraiment mixer les éléments en fait.
Mais c'est beau de voir qu'il avait très peu de moyens, mais que juste avec la passion, ils ont fait ça en fait.
C'est ça.
Juste à ce moment-là, Kerry James et lui avec juste la passion, l'amour du truc. Mais bref, aujourd'hui en tout cas, on est à un événement super important pour la culture hip-hop qui met plus l'accent du coup. Là, on a un maître de cérémonie qui commande du coup en live. Pendant les battles, il y a des battles qui se passent actuellement et tout. Je trouve que ce genre d'événement est très 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 important pour
remettre, c'est gratuit
en plus, remettre un peu au devant de la scène d'autres choses que des rappeurs sur la scène hip-hop. Donc n'oubliez pas que dans la scène hip-hop, c'est pas que du rap, c'est du graph, c'est du breaking, c'est du DJing, c'est plein de choses.
C'est une culture qui est hyper large au final.
Exactement.
Et du coup, ça me fait penser, t'as dit que c'était important de parler de tout ça, etc. Et en fait, il y a un personnage hyper important qui est présent ce soir sur l'event, DJ Goodka.
Exactement.
DJ Goodka qui a été, du coup, on disait depuis tout à l'heure que littéralement le DJ c'est important et que le rap ça n'existerait pas sans DJ. DJ Goodka, il a été présent dans l'émission HIP-HOP qui a été hostée par. Hostée, ça se dit en français hein. Hostée par Sydney, du coup. C'est passé en
1984.
Et c'était la première émission, il y avait un noir en France d'ailleurs, et la première émission de rap de tous les temps. Et DJ Goodka, donc le DJ de cette émission, est présent au Parallel Jam.
Donc profitez d'événements comme ça pour rencontrer des gens importants, même des gens qui sont juste là pour la culture, ils sont passionnants. Profitez en fait de tous ces bons moments et encore une fois, n'oubliez pas de montrer à votre entourage la culture, de profiter vous-même de la culture.
C'est très large, c'est sûr que ça plaira au moins plusieurs personnes. Il y a toujours un aspect qui plaira.
Exactement.
Ben merci à tous et suivez le Parallèle Jam et suivez-nous sur les réseaux aussi. On a du très 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 lourd qui arrive bientôt.
Et suivez News FM aussi, évidemment. Bien merci sûr. À eux pour
merci
ce magnifique
Sana.
Plateau.
En tout cas, moi, je me suis régalé aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai appris des choses avec vous que je ne connaissais pas. Et sincèrement, voir des jeunes, comme tu l'as dit, hein, des jeunes qui s'intéressent déjà aux racines de la culture hip-hop. Parce que quand on dit culture hip-hop, en fait, des fois, même la société va avec, en fait. C'est devenu tellement large, c'est au-delà. Ça ne se limite pas seulement à la musique ou à la danse, en fait. Ça va au-delà de ça. Donc, voir les jeunes aujourd'hui s'intéresser à ça, je me dis que, ouais... on a de l'espoir, tu vois. C'est important parce que des fois, tout à l'heure, il y avait un plateau avec Weekend du rap. Il y avait Willy Wax, hein, il parlait. Il a donné des exemples qui sont vrais aussi. Il disait qu'il y a des jeunes, ils achètent par exemple un t-shirt des Beatles, alors ils connaissent même pas c'est qui, tu vois. C'est juste parce que le truc est beau, ils ont décidé de l'acheter. Donc voilà, j'aurais aimé qu'ils soient là, je vais te dire non, mais ces jeunes qui sont là, ils peuvent nous apprendre l'histoire de la culture hip-hop, en fait, pour dire rap, parce que hip-hop, rap, ça va dans le hip-hop, quoi, hein. C'est le hip-hop qui est la base de toute la culture de ce qui se passe aujourd'hui ici. Donc voir le fait de parler de toute cette thématique-là, de ce sujet-là, surtout les DJ, que vous venez mettre ça en avant aussi, c'est l'histoire que vous avez racontée. Vous nous apprenez des choses, peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais c'est très très important ce que vous êtes venu faire sur ce plateau-là. En tout cas, voilà, moi je peux vous dire juste courage et puis continuer comme ça. Et
tu nous régales, ça va.
Merci beaucoup.
Donc n'hésitez pas, votre truc, ça s'appelle comment? Doggy Bag, c'est ça, hein? On peut le trouver sur Spotify, Deezer, donc c'est
Instagram, Radio Campus 90.8, le site internet.
Et vous faites des séries de chroniques, c'est ça, sur la culture hip-hop, hein? Ok, les amis.
Et on a une interview de Nelly qui est déjà sortie. On va avoir une interview de James Baker aussi qui va sortir sous peu. Faut juste qu'on s'occupe du montage.
On sort du nouveau contenu chaque semaine ces derniers temps. Là, ça n'arrivera pas lundi parce que c'est la reprise. Vous pourrez nous écouter dès ce mercredi à 15h en direct sur Radio Campus 90.8 pour une émission dans laquelle nous parlerons de nos coups de cœur de l'été.
Yes.
Bonne émission. Et puis en plus, il pleut, donc ça permettra d'ajouter un peu de soleil dans vos vies.
Allez, les amis, on va encore faire une petite pause musicale et on revient dans un instant. Restez branchés.